Chers amis, non, c'est pas du tout un honneur, encore moins un devoir. Je dirais que c'est l'occasion privilégiée de vous saluer. Avant tout, je tiens à rappeler que cette loi, qui n'est pas toute jeune, elle non plus, cette loi, elle est aussi pour une part l'œuvre de deux amis dont je tiens à rappeler devant vous la mémoire, et qui sont Forni, Raymond Forni, et qui présidait la commission des lois en 1983, et qui a beaucoup donné de lui-même et de son temps pour que les choses se déroulassent bien à l'intérieur de l'Assemblée nationale, et qui a contribué au texte, et aussi un ami très cher, bien que nous ne soyons pas à l'époque au même groupe, on s'en fout après non plus d'ailleurs, qui est Philippe Seguin, qui est un homme d'une qualité, qui était hélas un homme d'une qualité humaine exceptionnelle, et dont je tiens, comme pour Raymond Forni, à saluer la mémoire. Je rappelle que c'est un texte qui a été voté en 83 à l'unanimité. La plupart d'entre vous n'étaient pas nés, en tout cas pas en activité, mais il faut savoir que 1983, c'est l'époque des plus violents affrontements, et Dieu sait que j'en ai connu, autour de l'action conduite à la chancellerie. Ceux qui ont connu cette époque se souviendront peut-être que nous avons eu le privilège rare d'avoir la visite massive d'une manifestation d'officiers de police judiciaire et d'agents de police judiciaire devant la chancellerie. Il y avait parmi eux, je me pardonnerai ce souvenir, je regardais ça avec M. Sauvé, depuis lors qui a fait la carrière combien justifiée qu'il méritait, et nous étions tous les deux au premier étage de la chancellerie à regarder cette masse, littéralement cette masse de policiers, qui venait d'ailleurs singulièrement des deux côtés de la place Vendôme. Même quelqu'un qui n'est pas un stratège de la lutte contre les manifestations sait qu'il est très facile de barrer l'accès de la place Vendôme. Ça n'est pas au-delà des mesures policières. Là, tout était vide, tout était libre, on pouvait venir autant qu'on le voulait. J'ai distingué parmi les manifestants, policiers par le cœur, plutôt que pour d'autres raisons aussi, M. Le Pen. Je me rappelle encore, il avait un magnifique complet blanc. Donc il saisissait parmi la foule des complets gris. Et hélas pour lui, son complet, dans un geste violent, a été déchiré. La manche est restée dans les bras d'un manifestant particulièrement exalté, et il était absolument bouleversé, non plus par la manifestation, mais par le fait qu'il avait un veston monomanche, vogue nouvelle qui n'a pas prospéré. En tout cas, dans ce moment-là, a été votée, 10 juin 83, a été votée cette loi, tant d'apaisement, et laquelle je n'ai pas besoin de dire combien je tenais. Si elle a poursuivi sa course, pas autant que nous l'espérions, pas avec l'accueil plus général que nous souhaitions, c'est à cause de vous. À cause de vous, une fois qu'un projet de loi devient loi et qu'il est mis en œuvre, ça dépend de ceux qui contribuent à sa réalisation. Et ici, c'est par conséquent les militants, vous tous, à tous les niveaux et dans tous les cadres, aussi bien administratifs qu'associatifs, que je tiens à rendre hommage. L'hommage fait, est-ce que pour autant c'est un doux fleuve tranquille et que de faire prospérer le travail d'intérêt général, bien des années se sont écoulées. L'accueil fait par le public a été des lèvres toujours excellent. Je n'ai jamais entendu de critique ni sur le principe, quelquefois sur les modalités, mais tout le monde est d'accord pour dire vive le travail d'intérêt général. Et pour que vive le travail d'intérêt général, Encore faut-il qu'il y ait des femmes et des hommes de cœur pour y contribuer. Je n'ai pas eu le sentiment, si du côté des militants c'est un fait, que du côté des municipalités, des associations, pas humanitaires, nous rencontrions tout le concours souhaité. Encore une fois, beaucoup de sympathie, énormément de discours, l'action à un niveau moins élevé. Et c'est vraiment grâce à vous tous, mais à vous, qu'aujourd'hui, on regarde les résultats et on se dit, où en sommes-nous ? Où en sommes-nous ? Alors, je me garderai de vous faire un long propos et encore moins de vous écraser sur les statistiques. Quand au 1er janvier 1983, quand la loi préparation de la loi s'achevait, que la loi allait être votée, la situation carcérale était la suivante. Il y avait 35 800 détenus, 1er janvier 1983. Au 1er juin 2018, nous en avons 70 400 écroués détenus. Pas seulement écroués, détenus. Donc, il suffit de comparer les deux chiffres pour voir que le niveau de détention a doublé. Pendant ce temps-là, le travail d'intérêt général se développait. Il se développait, je donne les derniers chiffres. Nous avons en travail d'intérêt général, dernière statistique disponible, nous avons depuis 2002, parce que les chiffres sont relativement stables, au niveau du prononcé à titre de peine du TIG, 8853, et nous en avons, s'agissant de en 2002, et nous avons 16284 en 2016. Ce qui veut dire, pour résumer en un chiffre, ça demeure aux alentours de 5-6% des peines prononcées. La grande question qui, dès le départ, s'était posé à nous, c'est est-ce que le TIG va mordre sur le chiffre des détentions ? On remplace, comme nous le souhaitions tous, la détention par le TIG. Ou est-ce qu'au contraire, ça va se greffer pour l'essentiel ou pour partie sur la fraction et qui est la fraction qui ne serait pas condamné à des peines fermes de toute façon. Est-ce que ça a mordu sur le sursis ? Là, il faut regarder les chiffres de plus près, et on constate à ce moment-là que pour les 2016, les dernières années, la dernière année disponible, TIG simple, pur, 16 200, sursis TIG, sursis plus TIG, 9070, sursis TIG conversion JAP, nous avons 8645, c'est-à-dire que vous avez sensiblement 50-50 entre le TIG, peine de substitution, et ce que j'appellerais le TIG, mesure complémentaire, mais dont on peut se demander quelle partie a mordu sur le sursis plutôt que sur la peine ferme. Résultat, 34 000 mesures de TIG. Je rappelle simplement qu'en 2016, au regard de ces 34 000 TIG, nous avons 130 000 peines qui ont été prononcées comportant une peine ferme d'emprisonnement. Donc, 34 000 d'un côté, diversité évoquée, 34 000 d'un côté, 130 000 de l'autre. Et 95% de ces 130 000 peines sont des peines inférieur ou égal à 2 ans. Pas besoin, je vois M. le bâtonnier aussi préoccupé que moi, pas besoin de souligner l'importance du seuil de 2 ans, ce qui représente environ 124 000 peines d'emprisonnement aménageables. On les verrait diminuer grandement si on passait de 2 à 1 an. Mais en l'état, c'est 134 000 aménageables. Combien ont fait l'objet d'un travail d'intérêt général partiel ? Réponse, 7 %. 93 %. Donc, il y a à la fois le succès d'une mesure qui s'est enracinée dans le droit pénal, qui est entrée dans une certaine pratique judiciaire indiscutable, probablement plus utilisée ou mieux conçue par les juges de l'application des peines, mais ça demeure simplement 7 %. C'est-à-dire que la culture si étonnante pour qui s'attache à reprendre son histoire, la culture de la détention demeure toujours, imprègne toujours le corps social français. Pour notre communauté nationale, il n'y a pas de peine s'il n'y a pas de prison. Le reste, on s'en accommode. J'ai pas besoin de dire qu'aussi longtemps qu'une telle mentalité subsistera, les militants de la lutte contre ce que je considère comme un véritable fléau social, qui est le fléau carcéral, les petites peines d'emprisonnement. Eh bien, hélas, il est enraciné dans la mentalité collective. Enraciné. Pas de prison, finalement pas de peine. Alors, ce n'est pas que il n'y ait pas un hommage verbal toujours rendu à toutes les mesures qui permettent d'éviter l'emprisonnement. Ce n'est pas, même chez nos concitoyens, désir frénétique de voir leurs compatriotes ou ceux qui vivent sur notre sol gagner les prisons. Je n'ai pas besoin de rappeler que les prisons, il suffira d'évoquer quelques titres de rapports parlementaires, sont tantôt la honte, tantôt l'humiliation de la République. Il faut croire que la République est bonne fille, puisqu'elle supporte à longueur de décennies, je dirais presque à longueur de siècles, quand on regarde ce qui est advenu depuis sa création comme peine en 1810, la prison, on supporte cette humiliation, et même on la réclame, on en veut toujours plus. Car je considère, je le dis clairement, me gardant, j'ai pris le soin d'évoquer la grande figure de Seguin, de toute partialité ou de toute inclination politique, qu'un leader qui prétend, et pourquoi pas, chacun a le droit de rêver, à assumer un destin national pour premier objectif, parmi les premiers objectifs, indique une plus grande fermeté de la part des magistrats, ça veut dire en clair plus de personnes en prison. D'ailleurs, on en construira, toujours qu'on en construira assez. Je sais parfaitement que si vous avez, lorsque nous aurons 100 000 places de prison, il y aura 150 000 personnes qui seront assises dans les 100 000 places minimum. Voilà, c'est comme ça et c'est ainsi depuis très 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 longtemps. Alors, l'heure n'est pas à la psychanalyse collective, l'heure n'est pas à s'interroger sur le pourquoi la grande nation, comme on disait sous la Révolution, a un tel culte carcéral, mais c'est un fait. Ça nous vaut internationalement des, je ne dis pas des admonestations, mais des remarques ironiques de la part d'experts qualifiés par leur passé dans le domaine répressif, notamment M. Poutine, actuellement président de la Russie, qui souligne toujours que les Français ont bien tort d'avancer qu'ils sont la patrie des droits de l'homme, qu'il suffit de regarder les rapports officiels internationaux et parlementaires ou voir les condamnations prononcées à l'encontre de notre pays par, évidemment, la Cour des droits de l'homme à Strasbourg. Alors, que ce soit une humiliation, c'est une certitude, que ce soit surtout une misère humaine, c'est encore plus évident, que ce soit la source de récidive, point les besoins de relire Victor Hugo pour pouvoir... prison et l'école du crime, ouvrait des écoles et fermait les prisons. Le grand poète rêvait déjà, il n'a jamais cessé de rêver jusqu'à sa mort, et nous continuons à rêver après lui, mais à agir. Et là est votre, je dirais, votre privilège. Grâce au TIG, nous pouvons mieux agir. Il n'y a pas que grâce au TIG, mais le TIG est un des éléments essentiels de la lutte contre l'incarcération qu'au niveau des courtes peines, nous savons tous être néfastes. Dans l'état actuel, les courtes peines de détention qui sont effectuées pour leur très grande majorité en maison d'arrêt, je n'ai pas besoin d'écrire ce que sont ces maisons d'arrêt, la promiscuité, la corruption, les rencontres, on retrouve là, et le passé du grand Hugo, et le présent avec ce que nous savons comme preneur d'armes, puisque c'est ainsi qu'il se vole, à l'intérieur des prisons françaises dans les maisons d'arrêt surpeuplées. Donc, tout devrait contribuer à voir un essor politique. Le fait est là, il vit, il grandit, mais pas plus vite que l'inflation carcérale. Je dirais même la proportion demeurant constante. Il suffit simplement de se rappeler que 10% de 100, ça fait 10, mais que 10% de 200, c'est facile de le calculer, ça fait 20. 180, l'inflation est du côté des grands chiffres. Voilà. Donc, l'action, encore l'action, toujours l'action. Vous êtes ici pour travailler sur la meilleure approche possible. Et pour ma part, je vous dirais seulement que tout ce que je puis faire dans ce domaine, je suis toujours, toujours, toujours à votre disposition. Je ne peux pas dire, monsieur le bâtonnier le sait, que je termine mes jours sur un sentiment d'optimisme en me disant ma génération a tout transformé, hommage rendu à ces amis chers que j'évoquais. Au mieux, nous pourrons dire, ou plaider plutôt, les circonstances atténuantes. Nous avons fait ce que nous pouvions compte tenu de ce qu'est la réalité des mentalités collectives. Maintenant, à vous tous, de jouer, de lutter en tout cas. Merci.